Donc Esdras et Néhémie, on a mis la nouvelle communauté, vous savez pourquoi? Oui, parce que on voit que dans Esdras et Néhémie, il y a ces derniers écrits qu'on a du peuple d'Israël. Hein, en fait, c'est les derniers écrits qu'on a du peuple d'Israël. La vie du peuple d'Israël, de retour de l'exil, et puis il s'est établi où? À Jérusalem. Oui, il reconstruit le temple, il reconstruit les murailles, puis après, il y a une période de 400 ans environ de silence, c'est-à-dire des silences au niveau des prophètes, au niveau de la révélation, parce que le canon est fermé de l'Ancien Testament, et à peu près dans ce temps-là. Donc, on arrive vraiment, c'est précieux la parole de Dieu, mais c'est précieux qu'on a dans Esdras et Néhémie, parce que c'est les derniers événements du peuple d'Israël. Ce matin, on va aller sur le chapitre 2 d'Esdras. Donc, je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans Esdras 2. Esdras chapitre 2. Vous vous rappelez, en bas là, en bas c'est tous les rois, ok? Vous voyez là, le premier, c'est l'exil Babylone, en bas là. Puis, il y a le règne de Cyrus. Après, c'est le règne de Cambyse. C'est ça, c'est tous les règnes ici là, ok? De Perse. OK? Xerxès, Artaxerxès. Et puis ici, en jaune, c'est les prophètes du temps. Ézéchiel, Agée et Zacharie, qu'on va lire aujourd'hui. À la fin, c'est Malachie. OK? Le dernier prophète. Puis ici, on voit le retour de l'exil ici. Ici, on voit la reconstruction du temple environ. Et puis à la fin, là, c'est la reconstruction de Jérusalem, en mauve. Vous voyez? Et c'est un peu une ligne dans le temps. Vous voyez ici le premier retour. Le premier retour avec Zorobabel, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Le deuxième retour ici, Esdras. Parce que le livre d'Esdras, là, on est en train de lire, mais Esdras, comme personnage, apparaît dans le chapitre 7 d'Esdras. Il n'y apparaît pas maintenant, les premiers six chapitres. Donc, Esdras est là, le deuxième retour. Et le troisième retour, c'est quelques petits nombres des hommes qui sont retournés avec Néhémie. Ça, on va voir aussi avec notre étude. Mais ça, un peu la ligne dans le temps, qui nous montre comment la progression. Ici, ça se trouve la reconstruction du temple. Okay? Il y a ici Agée et Zacharie qui prophétisent. Okay? Donc, c'est un peu... Moi, j'aime comment je peux dire ça? Les images, là. Ça reste. Je ne sais pas si vous êtes un peu... Il y en a qui aide les images, là. Et puis, on peut voir un peu la ligne du temps. Il manque quelques événements, quand même. Mais au moins, c'est un résumé de tout ce qu'on va voir, le retour de l'exil, okay? Jusqu'à Néhémie, là, jusqu'à la fin. Là. C'est bon? Donc, Esdras 2, ce chapitre contient quoi? La liste d'exilés rentrés à Jérusalem. Vous avez vu la liste? Vous avez lu la liste?
On l'a pris par cœur.
On l'a pris par cœur. OK, ma soeur. Ah, oh, qui me dit toute la liste par cœur un matin? Hein? On va voir.
Et,
Zorobabel, oui, aussi. OK, donc, il y a une liste du verset. Le chapitre 2, il comporte 70 versets, OK? C'est 70 versets, c'est quand même long à lire. Il y en a d'autres chapitres qu'on va étudier, c'est très long, là, donc on ne pourra pas tout couvrir, là, mais les points les plus importants. Même pas aujourd'hui, on n'ira pas tout aujourd'hui, tous les noms, là, mais on va juste les regrouper, OK? La liste des exilés rentrés à Jérusalem, du verset 1 à 67. Les contributions volontaires pour la construction du temple, verset 68 à 69. Il y a une conclusion quand même, qu'on peut voir dans le dernier verset. Pardon. Et le verset 70. OK? Et là, on rentre dans Esdras. Avant de commencer, on rentre dans Esdras, OK? Vous avez la version de la Bible, la colombe? Quelques-uns? OK, moi, j'utilise la colombe. Et des fois, je vais donner, ou Isaac va donner des références bibliques. Et il faut juste faire attention, parce que pour ceux qui ont la colombe, pour ceux qui ont la Louis II, 1910, il y a des versets qui sont un peu décalés, OK? C'est pas qu'il manque des versets, tout est là, sauf que les versets, les chapitres sont un peu décalés. Et donc, dans votre Bible, la colombe, il y a ici les références, la nouvelle version, Néhémie, mais la version Louis II, c'est d'autres chapitres. Mettons, il dit, Néhémie, le chapitre 33 à 38, c'est le chapitre 4, 1 à 6 de la Louis II. Donc, des fois, vous allez voir, oh, yaya, qu'est-ce qui arrive? C'est l'ordinateur? Non, c'est facile, c'est pas l'ordinateur, c'est juste la version de... Donc, si vous avez la colombe, vous avez cette page-là qui vous indique, des fois, c'est quoi les différences, la différente numérotation. De toute façon, la numérotation dans la Bible, c'est pas comme ça qui est écrite. La numérotation est arrivée à peu près les années 1500. Bon, ça fait pas longtemps. Ils ont été rajoutés les versets et les chapitres aussi. C'est beau. Donc, c'est juste ça pour vous dire. On n'est pas rendu là parce qu'on est le chapitre 2. Donc, 1910 et le chapitre 2 avec la colombe, c'est pareil. Les références, en fait. Conclusion 70, le verset 70 du chapitre 2. On est dans le chapitre 2 d'Esdras. C'est bon? Cette même liste, on la retrouve avec quelques variantes dans Néhémie 7, 6 à 72, OK? Cette même liste, on la retrouve. On va en étudier aussi la liste quand on sera rendu au chapitre 7 de Néhémie. Cette même liste, avec quelques variantes, OK? Donc, lisons le verset 1 d'abord, du Esdras 2. Vous avez tous vos Bibles dans Esdras, oui? Verset 1. Voici ceux de la province qui sont montés de la captivité, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait déportés à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et Juda, chacun dans sa ville. Waouh! Ils ont retourné chacun dans sa ville, il dit. OK, voici ceux de la province qui sont montés de la captivité. Souvent, on va entendre les fils de la captivité, l'exil, la déportation, les fils de la déportation. C'est la même chose. En fait, on est en train de parler des mêmes personnes. OK? Et même les fils de la captivité, il y en a qui sont nés là-bas. OK? Il y en a qui sont nés en captivité. Si vous vous rappelez bien, c'est 70 ans. Là, c'est quand même une longue période de temps, c'est une génération. Il y a des gens qui sont arrivés, et on va le voir aussi, qui pleuraient, voir le temple, mais ils étaient quand même âgés, là, parce que 70 ans, là, mettons qu'ils ont été déportés à 20 ans, quand ils avaient 20 ans. Ils sont retournés, quoi? 90? Mais, donc, mais à ce temps-là, je pense que les gens vivaient encore 100, 120, sans problème, là. Mais c'est ça, là, ils étaient quand même âgés. Mais il y avait des fils de la captivité qui sont nés là-bas, à Babylone. OK? Donc, on peut distinguer trois parties par la suite, OK, dans ce chapitre. Mais on va sauter le verset 2, OK? Puis on va se concentrer à partir du verset 3, OK, de cette liste-là, jusqu'à 35. Le verset 3-35 qui donne la liste des Juifs d'après les clans ou leur lieu d'origine. Il y a des noms. OK, il y a des noms clés, mais il y a aussi des noms des villes. OK, même il y a des noms des villes de Babylone qui sont retournées. OK, dans cette liste-là. Il y en a plusieurs. Il y a des clans de famille aussi, du verset 3 à 35. Le verset 36 à 58, la liste du personnel du temple. OK, les sacrificateurs, qu'est-ce que vous avez remarqué, ceux qui ont lu le chapitre 2? Vous avez remarqué quoi? Quel genre de personnes avaient, des personnels du temple? Il y avait des sacrificateurs, il y avait quoi? Il y avait les lévites, il y avait quoi? Les portiers, oui, c'est ça, les portiers. Les chantres, oui. Les desservants du temple, les descendants des serviteurs de Salomon. OK? C'est quand même curieux, ça. Donc, les prêtres, du 36 à 39, les prêtres aux sacrificateurs, groupe en famille, sont nombreux à revenir à Jérusalem pour reprendre la fonction cultuelle. C'était important, là. Qui revient pour reprendre la fonction qu'ils avaient laissée avant quoi? Avant l'exil, quand ils étaient à Jérusalem. Là. De toute façon, ils avaient, dans le dernier temps de Jérusalem, ils avaient oublié beaucoup de choses. Là. Ils étaient tellement corrompus qu'ils ont tout délaissé, les sacrifices et tout. Mais quand même, il fallait qu'ils retournent, il fallait retrouver ces familles-là. Les sacrificateurs venaient de quelle famille? Descendants de qui? Des Aaron, c'est ça. Les Lévites, chargés des travaux... subalternes dans le temple aussi, les Lévites. Tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais pas tous les Lévites étaient des sacrificateurs. OK? Donc c'est pour ça qu'on fait la différence sacrificateurs et les Lévites. Qui est Asaph? Ça vous dit quelque chose? Oui, hein? Un chantre, les psaumes, là. David. C'est David qui établit, en fait, pour diriger les chants. Donc, il y a les descendants d'Asaph aussi qui sont là. Les portiers, les Lévites chargés de surveiller l'entrée du temple, c'est sûr. Les portiers, ça en dit long. L'entrée du temple, afin que seuls ceux qui ont le droit de pénétrer, ceux qui étaient autorisés, ils surveillaient ça, l'entrée au temple. C'était bien organisé quand même. Les desservants du temple, en hébreu, c'est ce que vous avez dans vos Bibles, les Nétiniens. C'est ça, quand j'ai lu aussi les Nétiniens, c'est qui ça les Nétiniens? Puis pourtant, ils disent, plusieurs fois, ils mentionnent les Nétiniens. Descendants des prisonniers des guerres qui avaient été dévolus au temple pour s'occuper des tâches subalternes. C'est ça, les Nétiniens. On peut voir ça dans le chapitre 8, verset 20 de Esdras, mais aussi on peut voir ça dans 1 Chronique 9, 2. C'est là qu'on voit les Nétiniens. Les plus anciens d'entre eux remontaient à l'époque, vous vous rappelez, les Gabaonites épargnés par Josué. Okay, c'était considéré comme des Nétiniens. On peut voir ça dans Josué 9, 22 à 27. On peut voir aussi, comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est les serviteurs de Salomon. C'est qui ça, serviteur de Salomon? Les descendants de Salomon, les serviteurs de Salomon. Et on peut voir ça dans Néhémie. Du chapitre 7 aussi, on va le voir après, ou le chapitre 11 aussi dans le livre de Néhémie, qui parle de ces serviteurs-là. C'est peut-être les descendants des ouvriers étrangers qui avaient aidé la construction du temple dans le temps de Salomon. Ça, on peut voir dans 1 Roi, chapitre 9, 20 et 21. Okay? Vous pouvez voir cette référence-là. On peut voir, ils furent par la suite employés à son entretien et sa réparation. Donc, vous voyez que les versets 36 à 58 nous donne la liste du personnel. C'est important, cette liste-là, pour que le service au temple soit quoi? Soit rétabli, soit fonctionnel encore. Et donc, c'est pour ça, cette liste. Et on voit encore là, la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu, qu'il a gardé ce registre-là, il a permis. Ils auraient pu être brûlés, ils auraient pu être perdus, mais ils sont encore subsistés pendant 70 ans. Là. Les Juifs étaient experts en... je pense qu'en documentation, on voit aussi les écrits qui ont été gardés parce qu'ils étaient très, très disciplinés, et pour même les copistes. Dieu a pu préserver tout ça. Les versets 59 à 62, les noms des personnes ayant attesté leur appartenance israélite à leur ascendance sacerdotale. Donc on voit ça, pas juste les sacerdotes, le sacrificateur, mais d'autres gens aussi sont venus qui avaient plus de... ils n'ont pas pu trouver leur descendance, mais ils étaient là dans le peuple. Donc, on voit quand même une chose particulière dans le verset 63, vous avez lu sûrement, et qu'est-ce qu'on a vu aussi avec Pasteur Richard aussi dans les prédications, quelques prédications dernières, là. Vous voyez dans le 63, je l'ai affiché ici, et le gouverneur leur dit... de ne pas manger des choses très saines, jusqu'à ce que, quoi? Un sacrificateur ait consulté l'urim et les tumim. C'est quoi ça, l'urim et les tumim? C'est un peu mystérieux, il y a un peu des mystères, c'est un peu... on ne sait pas exactement c'était quoi. Oui, on peut savoir à quoi ça servait, mais exactement, bien, on le voit dans Exode aussi que ça apparaît quelques fois. Ils étaient placés sur le pectoral du souverain sacrificateur, je l'ai mis là, et on les consultait pour découvrir la volonté divine. Oui, ce sont des objets. Tantôt, on va voir, mettons, des fois, quand on voit, quand David consultait l'Éternel, il dit, irais-je là-bas? Peut-être, ils utilisaient l'urim et la thummim. Irais-je attaquer ces peuples-là? David, il faisait ça, là. Il consultait Dieu. Donc, peut-être, c'est de cette façon qu'il avait une réponse. Je ne peux pas dire, c'est ça, là, mais peut-être. Mais il existait déjà, l'urim et la thummim. Oui, probablement des pierres plates, sur lesquelles étaient gravés des signes ou l'interprétation qu'on faisait dépendait de leurs diverses combinaisons. Je ne sais pas, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas, mais ce qui nous dit la Bible, c'est que ça existait. Okay? Et Dieu permettait ça, que le peuple puisse, peut-être dans le temps avant, pour consulter la volonté de Dieu. Okay? Mais quand même, ça vaut la peine de le mentionner, vu qu'on l'a vu dans le verset 63. Le décompte précis des familles, encore on est dans le chapitre 2, des familles qui revinrent de captivité furent enregistrées. Lisons le verset 64-67, l'ensemble tout entière, là on arrive à la fin, là. L'ensemble tout entière, l'assemblée, et c'est bon, merci pour la correction, parce que c'est bon, n'oubliez pas ces mots, l'assemblée. C'est vrai que c'est un ensemble, mais... L'assemblée, c'est important, était de quoi? 42 360 personnes, c'est précis, hein? sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7330. Vous vous rappelez, quand le peuple est rentré en Égypte, il sortait d'Égypte, il y avait combien, là? Vous vous rappelez, là? Non, il sortait. Il y a à peu près 1 million, là, plus, là. Imaginez, là. Là, maintenant, on parle de combien, là? 42 360. Quand même, c'est un stade tout plein, plein. Ouais, c'est comme un peu comme le comment on appelle ça là, le parc olympique là, c'est quoi déjà? Baseball? Les stades olympiques? Qui sait combien des gens rentrent là-dedans là? 60 000, hein? C'est ça, j'ai entendu ça. C'est ça, mais imaginez ça tout plein là. Parce qu'il y avait 7000 et quelques, il y en avait d'autres mondes aussi qui sont venus, qui sont rentrés avec le peuple.
Ils sont
rentrés à pied? Non, peut-être pas, parce que, vous rappelez, le roi avait donné quoi? Des chevaux et des ânes aussi. On va voir tantôt combien. Oui, mon frère. C'est ça. Il y en avait quand même beaucoup de monde, là. Donc, 42 000, juste pour imaginer, 42 000 pour plus 7 000, c'était un peu le stade... Mais c'était peut-être plus que le double. Donc, il y avait quand même du monde, mais pas autant que quand ils sont sortis d'Égypte.
Il y a eu 3 retours aussi.
Oui, il y a eu 3 retours, mais l'autre retour, c'était moins que celle-là, je pense. Et c'était beaucoup moins. Puis l'autre était encore moins. Et Néhémie et quelques-uns sont rentrés de l'exil. Parmi eux, s'est trouvé 200 chantres, c'est ça qu'on est en train de dire, 200 chantres. Ce n'est pas le même chant que Asaph, non, c'est des chantres et des chanteuses qu'il y avait dans le peuple. Ils avaient 736 chevaux.
C'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup. 240 mulets et 435 chameaux. Et combien d'ânes? Quand même, il y avait beaucoup d'ânes. Les ânes sont forts, hein?
Oui.
Hein? Ils sont forts pour même les monter aussi, un peu les monter. Mais on le voit plus tard que le voyage a duré combien de temps?
5 mois.
À peu près 5 mois, là. C'était long, là, quand même. C'était long. C'était long.
Et on descend trois rues, on est fatigué.
On descend trois rues, on est fatigué. Mais ça, c'est à cause de nos habitudes. Hein? Je m'inclus là-dedans. Il faut bouger plus, je pense. Il faut profiter des occasions de bouger. Mais c'est ça, l'assemblée tout entière était des 42 300. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Okay? Nous lisons dans les versets 68 et 69 que plusieurs chefs de famille firent des offrandes volontaires pour le temple. Ces offrandes témoignent de leur générosité. Okay? Ces gens devaient rebâtir leur foyer pour recommencer. C'est vrai ou non? Il fallait rebâtir aussi leur foyer, pas juste le temple. Okay? Mais ils se sont sans doute inspirés l'exemple de leurs ancêtres. Vous vous rappelez dans Exode, pour le tabernacle, qu'ils ont donné des choses pour construire le tabernacle. Et un peu parallèle, hein, ce verset-là, ce passage-là à l'Exode. Quand ils sont sortis, aussi les Égyptiens ont donné des choses aussi au peuple. Okay? Un peu un parallèle. Leur don en poids représentait à peu près 400 000 kilos d'or. C'est beaucoup, non? Et 3 tonnes d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Donc, il y avait beaucoup de matériel là, pour reconstruire le temple. Et dans le chapitre 3, après, on va voir que c'est la reconstruction de l'autel. Donc, pour commencer déjà à donner des sacrifices. Ah, oh, on s'en va là. Merci, ma sœur, merci. Pourquoi ces listes? Ces registres-là, pourquoi? Ils étaient importants, ok? On l'a mentionné tantôt. Ils étaient importants. Pourquoi? Pour prouver l'appartenance des rapatriés au peuple d'Israël. Ok? C'est important, ça. Il fallait prouver. Et il a dit au roi Cyrus, prends tous ces gens-là qui appartiennent à ce peuple-là. Il fallait prouver l'appartenance. Et pourquoi d'autres? Pour leur permettre de faire état de leurs droits et domaines de leurs ancêtres aussi. Il y avait des terres là-bas aussi. Et dans le cas des Lévites et des prêtres, elles attestaient leur droit d'exercer quoi? Les fonctions cultuelles. Il fallait retrouver leur lignée pour les services, okay, au temple. C'était les Lévites qui étaient chargés pour les services au temple. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important cette liste-là. Oui, c'est dur à dire, c'est dur à lire. Peut-être des noms pour nous, ça nous dit rien. Mais il faut jamais oublier, mes frères et sœurs, que cette parole-là, ces écrits-là ont été écrits pour les gens dès l'époque. Donc pour eux, ça avait beaucoup de sens. Oui? Non? Oui, il y avait beaucoup de sens. Donc c'est pour ça que c'est bon étudier le contexte historique de ce qu'on est en train de lire ou d'étudier. Comment ça s'est passé? Et puis après, on peut l'appliquer à nos vies. Qu'est-ce que nous vivons maintenant que nous avons toute la révélation? Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes ces choses-là ont été écrites pour notre enseignement. OK? Donc, on peut apprendre de toutes ces choses-là qui sont arrivées. Puis, on peut en voir aussi les gens qui, de l'époque, peut-être ils ne voyaient pas clair, mais nous, maintenant que nous avons toute la révélation de la Bible, on peut voir clairement, waouh, ça fait un peu écho à l'époque de l'Église, ça fait un peu écho. On va voir tantôt, on va découvrir ce que la parole de Dieu nous fait découvrir. C'est important donc les listes. Regardons maintenant de plus près le verset 2, ma sœur, à la demande de ma sœur, le verset 2, concernant leur chef. Ils revinrent avec qui? Le premier en liste, Zorobabel. Son nom, ça a l'air que c'était un peu d'origine babylonienne, Zorobabel. Et il était peut-être né dans la captivité. Josué, Néhémie, Seraïa, Réelaïa, Mardoché, Milchan, Mispar, Bivaï, il y a des noms un peu, Réum, Bana, il y avait 11. Dans la liste de Néhémie, il y en avait 12. Donc, l'auteur commence par la liste des dirigeants de la communauté qui encadraient les déportés rentrés à Jérusalem. Ces gens-là, c'est comme les dirigeants. Ça nous fait penser un peu dans l'Église, les anciens, non? Donc, c'était les dirigeants du peuple. Ils étaient là aussi, il me semble, au moment de la lecture aussi de la loi dans Néhémie aussi. Oui, ma sœur.
Le Mardoché qui est là.
Non, c'est dans Esther, c'est pas le même Mardoché, c'est pas le même Néhémie non plus. Parce que Néhémie arrive à peu près quelques décennies plus tard. Mais le nom était commun. Okay? Le nom était commun, Néhémie aussi. Donc, ils sont 11, mais la liste parallèle dans Néhémie 7 contient 12 noms, peut-être pour rappeler les 12 titres d'Israël. Okay? Rappelons aussi que Néhémie avait ses écrits, ses mémoires, et c'est Esdras qui est allé un peu aller faire, pour prendre ces informations pour écrire ces deux livres.
Mais Esther, c'est...
Xerxès, Assuérus, le roi perse. On peut le voir ici, on l'a vu dans le petit dessin. Là. Xerxès. Il n'est pas certain que Néhémie, voilà ce que vous êtes en train de dire là, Néhémie et Mardoché, mentionnés ici dans la liste, soient les mêmes personnes que le livre Néhémie et Esther. Okay. Oui, sauf que Artaxerxès. L'autre c'est Xerxès ou, dans d'autres versions de la Bible, c'est marqué Assuérus, le roi Assuérus, qu'on trouve dans le livre d'Esther. On trouve dans le livre d'Esther. Si nous reculons, ok, on va reculer. Non, c'est trop, hein? C'est trop. Non, je pense qu'on va rester là. Après, on pourrait voir. Ok, on était rendu ici, là? Bon, parmi les 11 mentionnés, 2 se démarquent. Et ils sont cités dans plusieurs fois dans le reste du livre. Ok? Il y en a 2 qui se démarquent. Qui c'est?
Zorobabel et Josué.
Et Josué, c'est ça. Des fois, on a des études, mais même on a des titres de Bible qui sont marqués le retour avec Zorobabel, ok, à la tête de Zorobabel avec Zorobabel qui vient avec eux. Zorobabel, qui était? Il était fils de Shealtiel. On voit ça dans Esdras 3:2, pardon. Fils de Joachim. Ça nous dit quelque chose là. À la fin, au début de chronique. 3:17. Et par conséquent, si c'est Joachim, là, par conséquent, c'est de la race royale. Hein? C'est vrai. Esdras, Néhémie, il n'a plus de roi. Mais vous voyez que Dieu permet que ces Zorobabel-là puissent être de la Et puis, il est quoi? Il est nommé comme gouverneur. C'est probablement pour cela qu'il fut nommé par Cyrus, gouverneur de cette province-là. C'est bon? Donc, ça, c'est Zorobabel. On dit souvent que Zorobabel et Esdras, non, et Josué, c'est un politique, c'est-à-dire dirige le peuple, l'autre spirituel, c'est-à-dire au niveau de la loi, l'enseignement. Après, plus tard, on peut voir aussi Néhémie, qui est nommé gouverneur, et Esdras, qui prend la place un peu de Josué, OK, pour la loi, pour enseigner la loi. Donc, parmi les 11 mentionnés, deux, OK, c'est ça, Josué. Josué en hébreu, c'est quoi? Yeshua. Qu'est-ce que ça vous dit, ce nom-là? C'est le même nom que Jésus, Yeshua, qui ont traduit en grec. Yeshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sauve. Fut le premier souverain sacrificateur après l'exil. C'est Josué le premier souverain sacrificateur. Il était le petit-fils de Seraïa, le dernier souverain sacrificateur avant l'exil. On peut voir ça dans 2 Rois 25-18. Okay? C'était de la race des souverains sacrificateurs. Donc, il vient de la lignée de Aaron. Donc, Josué. Des deux noms importants dans cette sortie de l'exil, okay, que Dieu place pour qu'il puisse diriger la construction, la reconstruction et aussi la loi, l'application encore de la loi avec Josué. Mais lisons la fin du chapitre 2. Là, on n'a pas fini vraiment avec le verset 2, c'est important, mais lisons la fin du chapitre 2. Verset 70. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers. Là, il fait un peu un résumé de ce qu'on a vu. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers, les nétiniers encore, s'établirent quoi? Où ça? Dans leur ville, ainsi que tous les Israélites. Dans leur ville, pardon. Ainsi que tous les Israélites dans leur ville. Ils se sont établis. C'était quoi donc le but de l'exil, le retour? C'était quoi? Pour les placer, oh ben là, vous êtes arrivés encore, on va vous placer dans votre ville, vivez en paix, c'est tout.
Dans leur ville, mais c'est toujours près de Jérusalem.
Oui, un peu alentour de Jérusalem. Mais c'est quoi le but? Juste les placer, ben allez, vivez maintenant? Non, on voit avant là qu'il y avait un but. Pourquoi le retour de l'exil? Oui, c'était bon retourner. Alors, quand je suis retourné à mon pays, 23 ans après, là, waouh, il y avait beaucoup de changements. 23 ans après. J'avais 19 ans que je suis sorti, donc j'ai retourné, vous pouvez calculer. Et il y avait tout changé. Mais c'était quelque chose à voir. Il y avait des choses qui restaient encore. Ils restaient encore comme je les avais laissées. C'est incroyable. Et 70 ans, c'est quand même... La ville était détruite, Jérusalem était détruite, mais pas complètement. Okay? Mais le temple avait été aussi brûlé, les murailles. Mais il y avait du restant, et Néhémie en parle, restant des morceaux là, qui restaient là. Vestiges. Et j'imagine aussi au niveau du peuple, okay, au niveau des villes aussi, il y avait des restants. Là. Et les gens pleurent même après quand ils voient le temple, ceux qui l'ont vu la première fois avant l'exil. Donc on voit qu'ils s'installent dans leur ville. Mais quel est le but vraiment qui nous enseigne ce chapitre de Esdras? Lisons dans Esdras 1, 5, mais nous allons le lire parce qu'il est déjà affiché. Dans le chapitre 1, verset 5, ça nous rappelle un peu quel est ce but-là. Là. Alors les chefs des familles et Judas et de Benjamin, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour monter au pays. Okay? Et bâtir quoi? Et bâtir la maison qui est à Jérusalem. Oui, c'était le but qu'ils retournent dans leur pays, mais aussi de bâtir et la maison et Jérusalem aussi. On le voit ça dans Néhémie. Le but de ce long et difficile périple n'est pas politique. Il n'est pas venu pour la reconnaissance au nouvel État d'Israël. Pourquoi? Il était là, Israël. Il était nommé là, mais il était encore sous l'Empire quoi? Perse. Mais la reconstruction du temple, le rétablissement du culte. Là, on va plus loin, là. OK? Pas juste le service, le culte à Dieu. Donc, le rétablissement. Et là, on s'en va encore plus loin. OK? Parce que dans Jérémie, qui a prophétisé l'éventuel retour, dans le verset 10, on voit que après 70 ans, vous allez retourner, il existe, exilé, il ajoute ce que nous lisons dans Jérémie 29, 11 à 14. Allons dans Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie 29, 11 à 14. Où se trouve Jérémie? 29. C'est bon ça, j'entends les Bibles tourner. 29. 29. Vous vous rappelez le verset 10? Mais voici, est-ce que vous êtes tous dans Jérémie? Et voici, dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai. On l'a vu ça. Avec qui? Avec Cyrus. Pour vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Mais le 11, regardez ça. Je connais moi. C'était un verset qu'on connaît bien. Hein? Je connais moi le dessein que j'ai formé à votre sujet. Oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir fait d'espérance. Waouh, c'est beau lire ça. OK? Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous quoi? Exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Oracle éternel, je ferai revenir les captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux. Je vais revenir dans ce lieu où je vous ai déporté. Waouh, c'est beau ces paroles. Hein? C'est beau ces paroles. Je pense, OK, là on est en train de voir qu'est-ce que ça signifie pour nous. Mais rappelez-vous, dans les 300 ans, 400 ans de silence, OK, le peuple, 300 ans avant la venue du Messie, 300 ans avant, il y avait déjà tout le canon, tout l'Ancien Testament, il y avait tous les prophètes, il y avait tous les psaumes déjà écrits dans la Septante. La Septante, c'est la traduction des écrits juifs, des écrits hébraïques en grec, la Septante. Donc, ils avaient tout ça. Ils pouvaient lire, ils pouvaient être consolés de ça. Ils pouvaient dire, waouh, Dieu a été fidèle. On a vu comment les exilés ont retourné. Puis là, ils voient, vous me chercherez, il dit, vous me trouverez. Donc, le but était long, difficile, mais on voit plus encore dans Jérémie qui a prophétisé l'éventuel retour des exilés. Mais encore là, lisons Agé qui était contemporain un peu du retour de l'exil, Agé 1, 1 à 2. Et c'est fort de qui il parle, il témoigne cet Agé-là. Il n'était pas Agé, là? Aïe, 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 je vais travailler parce que vous allez chercher les petits prophètes, hein, qu'on n'est pas trop habitué à les lire, là. Pardon? Tant mieux, tant mieux. Aïe, aïe, je l'ai trouvé, je l'ai perdu. OK, il est là. Agé 1.1. Quand vous aurez trouvé Agé, et là, on est à peu près là. Darius, là, c'est à peu près le chapitre 3, 4, 5 de Esdras, le roi Darius, là. Qu'est-ce qu'il dit Agé, là? Il témoigne de qui? La douzième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée pour intermédiaire du prophète quoi? Agé, à qui? À Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué. C'est deux personnes importantes là pour le peuple. Fils de Yotzadak. Le souverain sacrificateur. Il est appelé le souverain sacrificateur, c'est Josué-là. En ces mots, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par intermédiaire du prophète Agé dans ces mots. En ces temps-là, pour vous d'habiter, vous demeurez, vous voyez, c'est ça, quand cette maison est en ruine. Ainsi parle l'Éternel, ça continue. Mais on voit que Agé fait mention de ces deux personnes importantes, Zorobabel et Josué. Et voilà, c'est un peu résumé. Et puis là, vous voyez là, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps est venu, le temps que la maison de l'Éternel soit rebâtie. Encore le but de Dieu, que cette maison soit rebâtie. Rebâtie. Bâtie à nous. L'Empire babylonien était plus dur avec les sujets, OK, au niveau des dieux. OK, il était plus drastique. Par contre, l'Empire perse, la particularité c'était qu'il donnait liberté à chaque mettons, sujet qu'il, chaque peuple, il laissait la liberté de exercer leur religion, si on peut dire. Donc, ils cherchaient aussi une faveur. Oui. Mais c'était un peu la particularité de cet empire-là, perse. Et c'est pour ça que Dieu utilisait aussi cet empire-là pour qu'il puisse prendre, libérer son peuple. Mais qui a bougé tout, c'est encore Dieu. Oui. Mais c'est bon, merci ma sœur. Donc, âgés 1 à 2. Mais encore, ils ont Zacharie. Il est quelle heure? 3 heures. Je dis Zacharie 3, 1 à 10. Zacharie, encore là, on voit, je vais chercher dans les pages qui des fois sont pas usées. Avant Matthieu, voilà, Zacharie. C'est long, mais on va retenir quelques mots de 1 à 10. Dans 1 à 10, on va vous le connaissez déjà, mais on va le relire, ok? J'ai déjà lu ce verset-là, ce passage-là, mais comme j'ai dit tantôt, j'oublie beaucoup, donc il faut le relire, c'est bon de le relire. 1 à 10. Il me fit voir le souverain sacrificateur, Josué, encore là, encore, debout, c'est une vision, devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite. Pour l'accuser, encore là, le Satan, l'accusateur, hein. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là le tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales pour lui. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements, et l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué, et ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouvernerais ma maison. Tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui viennent. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi, tes compagnons, et qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des présages. Et en effet, me voici, je fais venir mon serviteur, le germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué, il a 7 yeux, et sur cette seule pierre, j'ai gravé moi-même ce qui doit être gravé. Oracle de l'Éternel, jeterai la faute de ce pays, ou la faute de ce pays, et leur seul, dans une seule journée, un seul jour. Et vous voyez un peu l'allusion, à ce jour-là, l'oracle éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sur la vigne, habiterez sur la vigne et sur le figuier. Qu'est-ce que vous retenez de cet oracle-là qui fait à Josué, Joshua? Vous voyez, fait allusion au Messie, en fait. Mon serviteur, le germe. Hein, c'est profond, ça. Mon serviteur, le germe. J'ôterai la faute de ces pays en un seul jour. En un seul jour. Fait allusion à une journée, là où... À qui, là? Un jour où le péché a été ôté. Pour de bon. Quand ça? La mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc, c'est profond, c'est qu'on lit dans Esdras, dans Zacharie. C'est sûr que ce peuple-là, mes frères et sœurs, en lisant tout ça, ils comprenaient, ils pourraient un peu voir ce qui en venait. Ils avaient quand même l'idée d'un Messie qui venait. Ils avaient l'espérance d'un Messie, et même souffrant un peu. S'ils pouvaient lire Ésaïe, même ils pouvaient avoir l'idée d'un Messie souffrant. Peut-être la révélation n'était pas à 100%. Qui, dans le Nouveau Testament, qui vous voyez qu'il a compris un peu ça? Ou qu'il a même fait un chant. Vous vous rappelez? Quand Jésus est présenté au temple, Siméon, vous vous rappelez Siméon, là? Qui fait tout un on pourrait le lire, mais là, il n'a pas le temps. Tout un témoignage sur Jésus-Christ. Et même vers les nations. Anne, vous vous rappelez Anne, là? Qui servait dans le temple. Il parlait de l'espoir d'Israël. Donc ces gens-là, ils ont compris. Mais on peut aller, même les disciples qui avait cet espoir-là. Okay? On a trouvé le Messie. On a trouvé le Messie. Donc, Nathanaël aussi. Donc on voit ce qu'on peut voir avec tout ça, là, le retour du peuple, le retour de l'exil. Mais on peut voir aussi dans Matthieu 1 à 17. On pourra pas lire maintenant, mais on va toucher les points importants. Vous pouvez voir l'écran parce que qu'est-ce que vous rappelez Matthieu 1? Quelqu'un qui a déjà lu Matthieu 1, qu'est-ce que vous rappelle? La Généa. Là, on tombe encore à une liste. Un peu comme c'est important, c'est pour ça qu'il est important pour le peuple la liste. On voit encore là tout. La descendance, ok, que Matthieu utilise encore là, 400 ans après et plus, pour écrire et pour démontrer à ce peuple-là que Jésus venait vraiment de la lignée de David selon la promesse. D'abord, Matthieu, quand il mentionne le premier verset, je pense qu'il dit Abraham, c'est rare, hein, fils de David. Abraham, fils de David, est-ce que c'est ça ou je me trompe? Matthieu 1? Abraham, oui. Abraham, fils de David, hein? Wow, quand même. Fils d'Abraham. Mais dans Matthieu 1 à 17, on voit la généalogie de Jésus-Christ. OK, dans le verset 1. Après la déportation de Babylone, il en parle, après la déportation de Babylone. Donc, il se réfère à ce qu'on est en train d'étudier, nous, là, dans Esdras. Yoconiah engendra qui? Chez Altiel engendra qui? Encore là, Zorobabel. Zorobabel est dans la lignée de Jésus-Christ. Zorobabel engendra Abiud et en bas, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, laquelle est née Jésus, Yeshua, le Sauveur, Josué, qui est appelé qui? Le Christ, le Messie. Donc on voit, pour nous, frères et sœurs, c'est riche. En enseignement, c'est riche, on peut voir la fidélité des dieux. Et on voit 400 ans après que Matthieu a écrit, il se réfère même à cette époque-là de l'exil de Babylone. Il part même des Zorobabel, de la lignée de David. On voit la promesse de Dieu. On voit un Dieu fidèle qui accomplit, qui est fidèle à ses promesses. Dans Agé 1:1, c'est Josué est envoyé pour rétablir la maison de Dieu. C'est vrai? C'est Josué là, c'est Joshua. Et nous lisons dans Matthieu 16:18. Et moi, je t'ai dit à Pierre, vous vous rappelez quand il dit, qui es-tu, qui je suis Pierre? Et sous cette pierre, la déclaration de Pierre, on joue avec les mots là, la déclaration de Pierre, sur cette pierre, quoi? Je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour ne seront, les morts ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon église. Cette assemblée, merci ma sœur, quand vous avez dit c'est pas l'ensemble, l'assemblée, en fait, assemblée dans le mot hébreu, c'était kahal. OK? On prononçait ça kahal. Et puis, comme nous lisons dans Esdras, et kahal, la Septante a traduit ces mots-là, kahal, dans le Nouveau Testament par ecclésia. C'est église, en fait. Quand on parle d'assemblée, le mot « église » vient vraiment de ce mot-là, hébreu, l'assemblée, l'église. OK, vient, la racine, là, vient vraiment du mot « kahal » en hébreu. Dans Ésaïe 2:64 et 3:1 aussi. Réunis comme un seul homme. Dans Esdras, on voit que le peuple réuni comme un seul homme, dans 3:1 aussi. Et dans 1264, qui étaient tous réunis, le nombre de 40 quelques mille, OK? Cette assemblée-là. Mais nous lisons dans Actes, mes frères et sœurs, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, encore là, à l'assemblée, et avaient tout en commun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, et le Seigneur ajouta chaque jour l'Église, ceux qui devaient être sauvés. Vous voyez le plan des dieux? On voit maintenant, un peu, si on fait un parallèle, le peuple ensemble, qui avait cru, était ensemble. Ils vivaient tout en commun, un peu comme ils donnaient tout. Hein? Ils avaient tout en commun, ils donnaient tout. Cette longue liste, cet registre au chapitre 2 témoigne du désir de Dieu de vouloir quoi? Rebâtir son temple, c'est vrai? Et rassembler son peuple, oui. Comme un prélude de la naissance de ce nouveau peuple, l'Église. Son nouveau peuple, l'Église. Le peuple de Dieu, en fait. Dieu tient encore un registre, savez-vous, Là, on n'est plus dans l'époque des registres. Est-ce que vous pouvez voir d'où vous venez, là, votre descendance? Moi, je ne peux pas aller plus loin que mon grand-père, le grand-père à mon grand-père. Après, c'est fini, là. Il y en a qui cherchent ici, au Québec, c'est connu, hein? Il y en a qui cherchent beaucoup leurs racines. Ils peuvent aller quand même assez loin. Mais est-ce que je peux aller... Ils peuvent aller très loin? Je ne sais pas, mais il y en a qui se rendent quand même loin. Mais heureusement, on n'est pas dans cette époque-là, OK? Mais Dieu tient encore un registre, là. Si nous lisons dans Malachie encore là, le dernier, avant Apocalypse. Le dernier, là, avant Matthieu. Et j'aime beaucoup me rappeler des versets, OK? J'ai la misère. Encore là, comme je dis à ma sœur, j'oublie. Mais j'essaie de trouver des trucs. OK, mettons, Jean 3,16, non? Ça vous dit quelque chose? Timothée 3,16, ça vous dit quelque chose? Toute la parole. Puis là, encore un 3,16 ici, là. Malachie 3,16, en Jean, c'est bon aussi. Malachie 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Qui pourrait le lire? Waouh, puis un livre fut quoi? De souvenirs fut. Ça fait un prélude à ce qu'on lit dans Luc 10-20. Qui peut lire Luc 10-20, s'il vous plaît? Luc 10, là, on est rendu au Nouveau Testament, vous êtes expert là-dedans. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les?
Cieux.
Où ça, dans les cieux? Sur les cieux, là, on peut voir notre nom? Oui, c'est... Mais il y a quand même quelque chose de plus clair encore dans Hébreu. Et ça va dans le même sens. Hébreu 12, 22 à 23. Là, je vous fais travailler beaucoup. Hein? L'Épître aux Hébreux 12, 22 à 23. Qui pourrait me lire ça? L'Assemblée écrit dans les cieux. Ça donne l'espoir pour nous. Hein? On sait que nos noms... Philippiens 4, 3. Vous voyez les autres, si vous voulez, commencer à chercher dans les autres. Apocalypse 3, 5 et 20, 15 peut-être. Philippiens 3, 4, 3, pardon. Ça va dans le même sens? Oui, c'est ça. Aïe, 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 dans le livre de vie, là c'est plus clair encore, ce n'est pas juste dans les cieux, c'est écrit dans le livre de vie. Le psaume aussi en parle, le livre de vie, mais on va pas se rendre là. Apocalypse 3, 5, et je pense qu'un verset qu'on connaît très bien, Apocalypse 3, 5 et Apocalypse 20, 15, qui pourrait le lire, s'il vous plaît? Encore là, le livre de vie, puis on finit par 20, 15. Apocalypse encore.
On est...
Wow! Quiconque n'est pas écrit, ça c'est un peu dur, mais c'est pas prétentieux de dire mon nom est écrit dans le livre de la vie parce que c'est l'agneau qui m'a sauvé. Et 1 Jean 5,13 dit, je vous écris ces choses-là afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est pas prétentieux. La parole de Dieu dit qu'on peut avoir cette assurance. Si quelqu'un ici n'a pas l'assurance d'avoir cette vie éternelle et que son nom n'est pas écrit dans cette liste, c'est aujourd'hui le temps. Hein? C'est aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui le temps de pouvoir vous repentir, OK, et venir à Jésus-Christ comme votre sauveur. OK? Mais Dieu merci que nous pouvons dire que notre nom est écrit dans cette liste, dans ce registre-là. Oui, ma sœur. C'est ça. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que votre nom est gravé dans cette liste-là? On chante, hein, des fois. Hein? Il y a un chant là qui dit, quand là-haut, l'appel suprême, je répondrai, je pense, j'oublie les paroles, je répondrai à mon nom, je pense. Hein? Je le connais en espagnol. Ça parle de cette liste-là. Mais mes frères et sœurs, pour finir, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu et nous pouvons lire 1 Pierre 5, 1 à 10, mais c'est trop long. Et il parle de que vous êtes c'est un peuple des sacrificateurs. Mais on va quand même lire quelques versets. Et le dernier passage que je vous fais chercher, 1 Pierre 5, 1 à 10. Peut-être qui pourrait lire les premiers versets. 1 Pierre 5, 1. Commencez par le verset 1. Est-ce qu'on est rendu dans le 5? Ah oui, parce que je suis dans le 2, là. Yeah, yeah. On va aller peut-être... Oui, 2, 5. Approchez-vous de lui, pierre, c'est ça? Pierre vivante. Rejetée par les hommes, c'est ça? Mais je suis préparé devant Dieu. Et vous êtes comme des pierres vivantes, c'est ça? Il dit, faites-vous pour former une maison spirituelle. C'est ça, je vais le corriger. Maison spirituelle, en saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire. Et ça parle beaucoup de bâtir, hein, vous par contre, dit le verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus à de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Hier, on était à visiter ma famille à Ottawa et on était en train d'écouter Esdras. Parce que j'ai dit à mes enfants, laissez-moi écouter quelques versets, quelques chapitres, okay? Je vais en profiter aussi. Et ma fille Gabriela a dit, mais papa, pardonne-moi, il a pris un langage un peu technique et c'est hors de contexte. Elle m'a dit, oh wow, c'était un peu hors de contexte, mais cette liste-là, je trouve un peu dur à lire, à entendre même. Ça veut dire quoi? Et là, on a en profité pour faire un petit cours d'Esdras. Et c'est bon, à la fin, j'ai dit, tu vois, cette liste-là, comme Dieu a préservé tous ces noms-là, c'était important de savoir d'où venaient ces peuples pour qu'ils puissent s'établir. Et voyez plus loin encore dans Matthieu, qu'on voit tous ces descendants de Zorobabel, là, ils disent, ah oui, c'est vrai, on vient d'écouter, Zorobabel était là, puis hein, Matthieu aussi. Waouh! Donc, on voit vraiment la révélation de Dieu et on peut être béni à cause de ça. Maintenant, on est le peuple de Dieu, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrifice, de boucs ou d'agneaux. C'est l'agneau de Dieu qui a payé toutes nos fautes. Okay? Puis on est un peuple de Dieu, puis on bâtit cette maison de Dieu que nous sommes. Amen. Donc, la semaine prochaine, on va voir le chapitre 3, en ce qui concerne la construction de l'autel.